Non, mais y a plus de rock, y a plus de rockeur, faut être honnête, il reste qui? Johnny, hein, Billy Idol, Scorpion. Non, mais je veux dire, voilà, il y a 4 groupes dans le monde, c'est pas Calogero là, ou je sais pas quoi, là, Whitney Houston, c'est pas du rock, ça, c'est pas ça le rock.
Radio Campus Paris à Rock en Seine avec le Riff.
Midi Mitchell, c'est une tapette, faudra y venir.
Découvrez les groupes programmés sur la scène Île-de-France de Rock en Seine de vendredi à dimanche à 19h.
Les Rolling Stones, c'est pas du rock. Hein? De quoi? Ils se droguent? Les Stones? Bon bah c'est du rock.
Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième journée du festival Rock en Seine qui se tient comme chaque année au Parc de Saint-Cloud. Et comme hier, l'équipe de Radio Campus a posé ses affaires sur le stand du RIF, le réseau qui promeut les artistes d'Île-de-France et qui a la gentillesse de nous recevoir pendant ces 3 jours et donc à qui on fait un petit bisou au passage. Merci les gars, on se retrouve tout à l'heure. Alors pour les auditeurs qui n'ont pas eu la chance d'écouter l'émission de vendredi, je rappelle qu'on est parti pour 1 heure d'interview en compagnie des 3 groupes sélectionnés pour jouer sur la scène Île-de-France et ce sera donc l'occasion de les découvrir ou d'en savoir un peu plus sur eux, tout ça dans la bonne humeur et la convivialité qui font la signature de votre radio préférée. Pour m'accompagner sur le plateau, j'ai l'immense honneur d'avoir 2 grands et beaux jeunes hommes à la culture musicale pointue et à l'oreille aiguisée. Tintintin ! Salut Erwan ! Salut Simon !
Salut, ça va ?
Salut Béatrix !
Ça va ? Pas trop chaud ? On s'en prêt pour attaquer ?
On est très très bien.
On est très très chaud.
Eh ben ça tombe bien parce qu'au programme, on reçoit les rockers de The Psychotic Monk, suivi du duo de rap Nouski et Vahati. Et on finira par poser quelques questions aux jeunes artistes et poètes, disons-le tout de suite, j'ai nommé Team Dub. Radio Campus Paris à Rock en Seine, jour 2, ça commence tout de suite. Merci d'écouter Radio Campus Paris.
Radio Campus Paris à la rencontre de la scène Île-de-France de Rock en Seine. C'est tous les jours jusqu'à dimanche, à 19h.
And
Vous venez d'écouter The Great Escape, extrait du nouvel EP des Psychotic Monk, et ça tombe bien puisqu'ils sont avec nous sur le plateau. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour. Bonjour.
Alors, donc, on a Martin, Clément, Arthur et Paul, c'est bien ça ?
C'est ça.
Alors, aujourd'hui, vous êtes quatre, comme le titre de ce nouvel EP, mais au départ, à la création du groupe en 2012, vous n'étiez que trois. Quel parcours vous avez effectué en 4 ans et, entre guillemets, comment vous en êtes arrivé à agrandir l'équipe ? Il va falloir choisir.
En fait, on s'est rencontrés tous les trois, du coup, avec Arthur et Martin. On a créé ce groupe parce qu'on a envie de faire... Ça vient d'une répète, en fait, qu'on a fait au hasard tous les trois comme ça, parce que j'ai rencontré Martin qui m'a fait rencontrer Arthur. Et on a développé ça pendant 3 ans. Et au bout des 3 ans, on est arrivé un peu aux limites justement du nombre 3, où on écoutait beaucoup de groupes où ils étaient 5, 6, voire 7 par moment. Et on avait besoin d'une personne en plus pour pouvoir vraiment aller au bout des arrangements et pouvoir vraiment faire la musique qu'on voulait faire. Quoi.
Oui, tu voulais rajouter quelque chose ?
Ça s'est fait un peu tout seul aussi, parce que Paul, ça fait 1 an qu'il est officiellement dans le projet, mais ça fait aussi longtemps qu'il nous suit, qu'il vient, il a enregistré sur le premier EP qu'on a fait, des claviers, des trompettes et plein de bizarreries. Et ça fait pas mal de temps qu'il nous suit aussi en live, au début un peu comme homme de l'ombre, et puis voilà, au bout d'un moment on s'est dit...
Alors pour l'instant, vous restez sur les instruments un peu classiques. Est-ce que c'est aussi un moyen pour vous de montrer qu'au 21e siècle, on peut continuer à faire de la musique sans avoir des parties un petit peu électro ? Ou est-ce que c'est un projet peut-être qui va arriver dans les prochains...
On se sert déjà, depuis l'arrivée de Paul, de machines électroniques, mais pas pour faire de l'électro. En fait, c'est des machines qui existent depuis les années 70. C'est des synthétiseurs, c'est un Moog qu'on a acheté là, et qui défonce, qui fait des trucs chelous. Et on s'en sert d'une manière étrange.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, faudra nous voir sur scène, quoi. Mais c'est. En fait,
chacun. C'est un bon moyen de faire venir les gens, ça.
Ouais, non, mais en fait, chaque instrument, même s'il est classique, il peut être utilisé d'une manière différente. Et c'est un peu ça qu'on essaye de chercher, même avec des trucs traditionnels comme les guitares, les batteries, etc. Donc voilà, c'est ça notre démarche, en tout cas.
D'accord, Erwan, tu avais une question.
Oui, bien sûr, parce que Paul, toi du coup, c'est toi qui es le dernier à être arrivé dans le groupe, c'est ça ? Et
ouais,
toi, ton rôle dans le groupe, c'est de jouer c'est le clavier, principalement ?
Je suis un peu le couteau suisse, ça dépend, des fois, à la base, c'était vraiment clavier percu, et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que les arrangements à 2 guitares, c'était vachement bien, mais le synthé, pour faire la basse, c'est pour ça qu'on l'utilise, en fait, le Moog, c'est pour faire la basse, ça apporte ses limites un peu. Aussi, donc je me suis mis à la basse tout en gardant aussi les percus. Du coup, voilà, c'est clavier, basse et percus.
Vous avez
des besoins du morceau, quoi.
Vous avez aujourd'hui 2 EP qui sont sortis assez rapidement les uns à la suite des autres, c'est ça ? Mais vous, comme vous le disiez, quand vous étiez que 3 au commencement, vous avez déjà un petit peu tourné, un petit peu joué ensemble entre temps. Ça fait depuis 2012, grosso modo, que vous
2012.
Jouez. Et à l'époque, en 2012, il n'y avait pas cette envie de passer par le studio, de passer par un EP déjà ? Ou est-ce que vous sentiez peut-être qu'il y avait besoin de préparer autre chose ou qu'il manquait quelqu'un, justement ? Vous attendiez Paul pour...
Au départ, en 2012, tout ce qu'on voulait faire, c'est des concerts tous les trois, en fait. C'était vraiment ça, la démarche. Et puis l'idée du studio, elle est venue petit à petit avec l'envie d'enregistrer. On a fait beaucoup de maquettes aussi, nous, de notre côté. Et on attendait aussi d'avoir les fonds pour le studio, parce que c'est quelque chose qui coûte cher. Et au départ, c'était vraiment faire des concerts tous les trois et puis faire cette musique.
J'ai vu justement certaines vidéos de vos performances live. C'est à la fois assez minimaliste dans la mise en scène, même assez sombre. Pas sûr que j'aurais réussi à vous reconnaître d'ailleurs là aujourd'hui. Et pourtant, il s'en dégage une certaine fureur presque transcendantale. Comment vous vivez en fait ces moments sur scène ? Quelle place vous leur accordez ?
On essaye de faire en sorte que ça soit notre survie en fait. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que quand on monte sur scène, on a découvert un truc il n'y a pas longtemps, c'est un écrivain qui s'appelle Kundera, et en fait il parle d'une théorie du philosophe Nietzsche qui s'appelle le mythe de l'éternel retour, en fait. Et en fait c'est une idée selon laquelle t'as un mec qui vient te voir et qui te dit, là t'as 2 choix, soit tu vis tout ce que t'as vécu jusqu'à maintenant à l'infini, soit tu meurs et tu vas dans le néant et tu n'existes plus. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est à chaque fois qu'on monte sur scène, on essaye de penser à ça, en fait. Et on essaye de se dire, là, si on devait vivre ce moment à l'infini, si on devait vraiment se retrouver là, sur scène, et faire ce qu'on va faire d'une manière répétée, parce que les choses répétées qui sont difficiles, ça devient horrible. Bah, du coup, ça nous permet d'aller au bout de nous-mêmes, en fait, et d'essayer de ne pas penser ni au passé ni au futur, et d'essayer juste de penser à ce qui se passe là. Et ça nous permet de vraiment rentrer en contact avec nous-mêmes d'abord, et ensuite avec les gens qui sont devant nous. Et puis ça nous permet de nous exprimer, quoi.
On devient une autre personne sur scène ?
Je pense qu'on ne devient pas une autre personne, ou alors on devient... Enfin, en tout cas, je pense qu'on devient peut-être soi-même vraiment. Enfin, ça dépend des gens, quoi, mais... On libère quelque chose qui est peut-être inconscient en général et qui, là, quand on est sur scène, s'exprime et prend, enfin, devient réel, en fait.
La transe.
Peut-être la transe, ouais.
On voit que vous allez chercher des influences jusqu'à Kundera, donc vous avez pas mal... ça sort même du domaine de la musique. Pour revenir à ce qui a pu vous inspirer dans la musique, on va revenir à votre premier EP sur lequel on a une chanson qui s'appelle Paranoid. Est-ce qu'on peut voir là un petit clin d'œil à Black Sabbath ou c'est absolument fortuit et ça n'a rien à voir ?
Non, ça n'a rien à voir. On respecte beaucoup Black Sabbath, mais en fait, on n'a jamais écouté.
Vous avez une base, vous faites du rock psyché avec une base qui est un peu ce qu'on appelle stoner aujourd'hui. Et là, on parle d'un des précurseurs, mais dans vos influences, finalement, il n'y a pas tellement d'artistes de ce domaine-là. Je vais vous parler beaucoup des Floyd, vous parlez aussi de Ty Segall.
Ouais.
Donc finalement, c'est pas tellement là que vous allez piocher.
Non, en fait, on est fan des Black Angels. Ça, c'est... En fait, on est plus fan à la base de, on va dire, la musique néo-psychédélique, c'est-à-dire de ceux qui écoutaient de la musique psychédélique, donc comme les Black Angels, qui écoutaient de la musique psychédélique des années 70 et qui l'ont refaite à leur sauce dans les années 90 et les années 2000. Et après, pour nous, la musique psychédélique, c'est quand on parle de psychédélisme, on parle de Pink Floyd à l'époque du live à Pompéi, à l'époque de...
Là, on touchait le sommet du psychédélisme.
C'est ça. C'est-à-dire que c'était vraiment quatre mecs qui sont allés jouer au sommet d'un volcan devant 15 techniciens et qui sont juste partis ailleurs, quoi. Et ça, c'est génial.
À jouer du gong avec une guitare,
ouais,
un moment assez fou. Votre premier EP, il part un peu, pas dans tous les sens, mais on sent que vous avez envie de faire beaucoup de choses différentes dessus. Et quand vous passez sur le second EP, on se sent beaucoup plus focalisé, le second EP.
Ouais.
Vous vous en êtes rendu compte de ça en studio ? Il y avait des idées plus précises. Rien que dans la structure, on a une intro, les morceaux sont plus cohérents les uns avec les autres.
Ouais, bien sûr. Et je pense que jusqu'à la fin de notre vie, ça sera comme ça. À chaque nouveau disque, on sera plus focalisé sur ce qui est, je pense, l'essence de nous, quoi, de nous quatre. Et le premier EP était très large. Le deuxième est un petit peu moins large. Et ça va se resserrer jusqu'à ce qu'on trouve, ou qu'on ne trouve pas, en tout cas, ce qui nous intéresse dans la musique, quoi.
Je pense que ça... Je pense que ça s'élargit un petit peu aussi. Le premier EP dont tu parles, encore une fois, c'était un peu l'apogée de la musique qu'on a pu faire à trois. Donc forcément, ce côté assez brut et très, très stoner, c'était... on peut appeler ça comme ça pour l'époque. Après, voilà, ça vient aussi du fait de l'arrivée de Paul. Cette envie d'élargir au sens même presque propre de la musique qu'on fait, plus de largeur, donc les claviers, les nappes, les deux guitares qui permettent de faire.
Parce que ce deuxième EP, il est limite, comme on parlait des Pink Floyd, il est aussi, on l'a entendu avec le morceau qu'on vient d'entendre, il y a aussi beaucoup de passages qui sont progressifs où il va y avoir un gros break et les guitares d'un coup ça va planer beaucoup plus, et ça on l'a un peu moins dans le premier finalement.
Ouais, bien sûr. C'était beaucoup plus entre guillemets classique sur le premier, en fait.
C'était une période de transition.
Ouais, mais là on essaye vraiment on découvre plein de musiques où les mecs se font pas chier, enfin aussi justement ils se font chier, c'est-à-dire qu'ils inventent, même dans la structure ils inventent des choses, et du coup on essaye de briser les choses, de briser les normes qu'on s'est infligées nous-mêmes, quoi.
Simon, dis-nous tout.
Ouais, du coup, par rapport à... Enfin, vous parlez beaucoup de références, surtout historiques. Est-ce que vous avez des influences aussi sur des références avec des groupes plutôt émergents de la scène actuelle, que vous pouvez, par exemple, côtoyer sur des scènes à droite à gauche ?
On est fan, mais ça, je pense que c'est déjà émergé de toute la clique Ty Segall, le Fuzz, de un groupe qui s'appelle Wand aussi. On a découvert un super groupe qui s'appelle Yak aussi, qui est en train de percer en ce moment, qui est un groupe anglais, c'est du garage. Et en fait, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire.
C'est à peu près ça.
Et du coup, si on a envie de vous découvrir ce soir à Rock en Seine, à quelle heure est-ce que vous passez ?
On passe à 22h.
Ok, bon bah écoutez, c'est noté, merci beaucoup.
Oui. Ouais, j'ai une petite dernière question, est-ce que vous allez vraiment botter le cul d'Iggy Pop ?
Non, on se permettra jamais. C'était vraiment parti d'une blague avec un pote.
Vous avez vu beaucoup de rhum en fait.
Ouais, et ça a fini sur les réseaux sociaux et voilà. J'avoue que maintenant je me chie un peu dessus. Parce que
Il va quand même venir
sur Facebook où je dis I'm gonna kick your ass à Iggy Pop et ça le fait pas quand même.
Donc voilà, pour ceux qui sont pas là, pour ceux qui sont pas là ce soir en scène, la prochaine date parisienne c'est au Point Éphémère le 8 novembre prochain.
Ouais.
Ok, voilà. Bon bah c'est super, merci. C'est noté. On verra ce soir si à 22h il y a Iggy Pop qui va essayer de venir te répondre. Et,
J'aimerais bien quand même qu'il soit là.
Pour te botter le cul. Bon bah écoutez, merci beaucoup à tous les quatre.
Merci.
Et donc, si vous n'avez pas la chance de les voir ce soir à Rock en Seine, c'est donc au Point Éphémère qu'on vous retrouve. On se retrouve tout à l'heure. Merci à tous.
Radio Campus Paris à Rock en Seine avec le Riff. De vendredi à dimanche à 19h.
Quand on pense à la suite.
C'était Fantôme du duo Nouski et Vaati qu'on reçoit tout de suite à l'occasion, je vous le rappelle, du festival Rock en scène où nous nous trouvons en ce moment. Alors bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors si j'ai bien tout compris, vous collaborez ensemble depuis 2014, Nouski en tant que rappeur et Vaati en tant que musicien producteur.
Exactement.
C'est ça?
Yes.
Alors, comment ça s'est fait exactement?
On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux comme les jeunes couples des années 2000. Je lui ai envoyé un message sur Facebook parce que j'avais vu
sur Adopte un mec.
Sur Adopte un mec, sur Mythique, j'ai essayé tout. Et puis il m'a répondu. Donc tu vois, donc c'est une histoire qui marche.
Et comment t'as eu l'idée de le contacter?
J'ai vu un son qu'il avait sorti à l'époque et ça m'a touché. Et j'ai pensé qu'on avait quelque chose à faire ensemble.
D'accord. Et c'était quoi comme son? Si on est curieux de l'écouter justement pour savoir qu'est-ce qui a été à l'origine de cette formation.
C'était un son vachement inintéressant musicalement, basé sur un sample de Aretha Franklin, c'est ça? Je crois que Nouski aime Aretha Franklin.
Bah, surtout, j'aime beaucoup, mais
ce morceau-là,
surtout à l'époque, au moment où le morceau est sorti, j'écoutais ce morceau d'Aretha Franklin, donc j'ai trouvé qu'il y avait un truc du karma, tout ça.
C'était le destin qui a forcé la rencontre. Justement, puisqu'on parle instru, comme on l'a entendu, ça tient quand même une part assez importante sur vos morceaux. On y reconnaît évidemment l'influence de la trap, mais pas seulement. Comment tu définirais ton style, Vaati, et quelles sont tes références?
C'est un peu compliqué de définir un style dans le sens où ça... Bon, je pense qu'on est encore tous les deux dans une période où ça évolue, dans le sens où on se construit en même temps qu'on sort des choses, et au fur et à mesure, de différents styles musicaux peuvent nous influencer. Et je pourrais définir un projet par exemple, mais pas forcément un style global sur tous les projets parce que ça change trop. Après mes influences, j'écoute vraiment plein de trucs différents. Mon artiste préféré ultime, je crois que c'est Michael Jackson, mais après j'écoute aussi beaucoup la...
Et le casque tombe.
C'est Michael Jackson qui revient pour tenter.
Et j'écoute beaucoup aussi la scène de beatmaker actuelle, des mecs qui sortent des tapes super cool, enfin plein de trucs.
Parce que là, on est en interview, souvent ce qui revient, c'est que vous avez des influences qui sortent vraiment beaucoup du rap, qui vont même aller chercher dans la vieille folk ou dans le rock ou dans des choses qui sont sorties dans les années 60-70.
Ouais.
Ici, on est dans un festival qui s'appelle Rock en scène, donc forcément, on a envie de questionner un peu votre rapport au rock. Et en tant qu'auditeur, finalement, vous avez une culture rock hyper développée.
Je pense qu'on a tous les deux commencé à écouter plus de la musique des 60s et des 70s plutôt que du rap. Et je crois qu'on est venu au rap à peu près au même moment, quand on se connaissait pas encore, mais dans la période du lycée, quoi. Et ouais, on écoutait plus de...
Du coup, quand on écoute Bob Dylan et Aretha Franklin, comment on en vient à faire du rap? C'est quoi le... Il y a eu un rappeur à un moment donné qui a fait un déclic dans votre tête, ou c'est juste... quand vous avez commencé à faire de la musique, c'est venu un peu tout seul dans ce sens-là?
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Moi, je sais que j'ai commencé à écouter du rap parce que j'ai commencé à rapper. Et à l'époque, j'écoutais pas vraiment de rap. Et j'ai eu mon déclic avec des artistes, même plus tard, peut-être 2 ans plus tard. Avec des mecs comme Young Thug, tout ça, qui m'ont ouvert les yeux.
Et tu faisais un peu de musique avant de faire du rap, ou tout est arrivé en même temps?
Je faisais de la musique depuis que je suis au collège, de manière plus ou moins sérieuse. J'ai même eu un groupe de rock.
Tu jouais quoi?
Je jouais rien, je chantais déjà. Je sais gratter un peu, mais je joue pas vraiment d'instrument.
D'accord. Toi, Nouski, tu as aussi une carrière à côté. Tu fais partie d'un groupe, la Race Canine, si je ne m'abuse, avec lequel tu as sorti un EP en avril. En quoi c'est différent de ce que tu fais avec Vaati?
Déjà dans la forme, c'est pas un rappeur, un beatmaker, c'est 5 rappeurs, quoi. Donc on se démerde pour les prods, les projets, peut-être ils ont pas la même forme musicale. Nous on fait vraiment ce qu'on veut, machin, et puis on l'envoie de manière peut-être un peu moins professionnelle qu'avec Vaati. Et puis moi aussi je fais des trucs solo que j'envoie. Pareil, de toute façon tout est gratuit pour le moment.
Justement, là, t'en parles de ce côté un peu plus professionnel quand tu bosses avec Vaati, parce que quand tu bosses avec ton crew, t'es avec tes potes et...
Ouais, c'est avec mes potes, bon après
là, on
c'est
est
pro
dans
aussi,
un...
mais...
Est-ce que le rapport avec Vaati, il est... différent, un peu plus formel, ou est-ce que finalement t'as retrouvé ce même esprit
Bon, c'est mon pote aussi, hein, Vatier, c'est pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire. mais peut-être qu'on a réfléchi le truc dès le début, peut-être un peu différemment.
La façon de travailler n'est pas la même.
Ouais, bah là on fait des morceaux où il y a que nos deux influences à nous qui doivent être accomplies, quoi. Donc c'est pas cinq personnes, c'est pas déjà cinq personnalités, cinq égos.
Et puis cinq rappeurs, parce que là en fait, ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est l'aspect écriture. Et musique, comment ça se passe en fait au niveau du déroulement? Est-ce que ça arrive un petit peu les deux en même temps? Est-ce que toi, Nuski, tu lui parles un petit peu des sujets que tu aimerais aborder et toi, Bati, tu t'adaptes un peu, tu essaies de créer l'ambiance qui correspondrait? Ou c'est des choses qui... Expliquez-nous.
Alors la création d'un morceau, ça commence généralement par une progression d'accords, une suite d'accords qu'on trouve, qui nous plaît. Des fois, je la trouve seule, des fois, on est ensemble. Après, j'avance un peu sur la partie instrumentale, je commence à mettre des batteries, trouver des mélodies, des trucs comme ça. Après, généralement, on se voit pour faire des... Souvent, on aime bien travailler, commencer par le refrain, parce que je sais que lui, il aime bien écrire le refrain en premier lieu. Et donc, on travaille les parties mélodiques du refrain ensemble. Mais une fois que l'instru est suffisamment avancé, on avance tous les deux de nos côtés. Et moi, j'avance l'instru et lui, le texte. Et il est très solo dans son approche du texte. Moi, je n'ai pas trop à intervenir sur le... Non, mais c'est vrai, j'interviens pas tellement sur les mots que tu choisis.
T'as besoin d'avoir des moments, justement, à toi, seul, pour écrire.
Seul ou même avec mes potes, avec Nawel, avec des gens avec qui j'écris souvent. Ça m'arrive. C'est important. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je pourrais pas te dire... pour telle ou telle raison, mais juste il y a un moment où j'ai envie de me retrouver avec le texte, avec la prod et mon cerveau. Et...
Revenir à l'essentiel. Ouais.
Et après, lui proposer des trucs, pas forcément finir tout, souvent écrire un couplet, un thème, trouver un truc, et après on voit ensemble un peu de où on va en venir. Quoi.
Et vous tombez facilement d'accord ensemble?
Généralement, oui.
Quand même, on tombe assez facilement d'accord.
En fait, les trucs sur lesquels on peut se battre, c'est des... Par exemple, une mélodie où il y a je sais pas 5 notes et souvent des fois la 5e je trouve que c'est pas la bonne note à choisir et c'est souvent ces trucs comme ça.
Ouais, c'est des petits trucs mais bon.
C'est vraiment les mélodies quoi, les lignes mélodiques, c'est le seul truc sur lequel on discute des fois un peu longtemps quoi.
Mais du coup toi Nuski, globalement t'es libre en fait dans ton texte quoi, Vati va pas jamais venir.
Moi je suis assez libre quand même. Et lui aussi quand même, il est assez vachement libre.
Oui, on se laisse un peu tranquille à des moments,
Mais c'est vrai que des fois, j'arrive avec une surprise, quoi.
Il y a vraiment une histoire de karma, du coup, chacun fait vraiment son truc et ça colle parfaitement, quoi.
Écoute, il semblerait.
Là, justement, on parle un peu des textes. C'est vrai que le rap, ça peut revêtir plusieurs formes et avoir différentes finalités. Ça peut être politique, contestataire, ou tout simplement être pris pour sa valeur esthétique ou divertissante. Toi, Nuski, tu t'inspires de quoi quand t'écris tes textes? À qui tu t'adresses et quel message tu veux faire passer, si jamais il y en a un?
Bah, pour le moment, j'ai pas le peut-être pas le coffre pour écrire des choses politiques ou contestataires.
T'aurais envie?
Je pense que c'est intéressant. Des artistes que j'admire le font. Moi-même, pour le moment, je me vois comme un divertissement. Je parle de ce que je connais et j'essaye d'en créer un divertissement, c'est tout. J'ai pas de prétention sérieuse ou philosophique.
Divertissement parfois, mais comme on l'a entendu là sur Fantôme, on voit quand même se peindre une jeunesse qui se cherche un petit peu, qui est pas forcément toujours... dans le divertissement, c'est pas léger comme
alors
comme
non,
texte.
Des fois c'est pas léger, t'as raison. Non, je le vois comme une comédie romantique. Voilà, je le vois comme une comédie romantique, un truc tragique, mais c'est divertissant. Bon, on a envie de regarder le malheur. En fait, j'aime bien noircir un peu ce que j'écris. Voilà, j'aime bien noircir ma vie.
On parle des textes et justement on parle de cette notion de divertissement. Les textes participent, je trouve, dans votre musique à créer une petite ambiguïté. Est-ce que vous êtes sur des morceaux où il y a beaucoup de piano, où les instrus vont être relativement douces? Et quand toi, tu vas travailler tes textes, on sent que ça colle à ça. Et pourtant, dans ton écriture, il y a quelque chose d'assez cru. Et ça crée un décalage qui est intéressant. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu recherches ou c'est quelque chose que t'as fait sans trop t'en rendre compte
Bah, merci, déjà. ça m'est arrivé de chercher un peu le cru... voilà, comme pour moi une scène de violence, un truc très important dans un film. De voir une vraie scène de violence avec du vrai sang pour mieux rigoler après, en fait. C'est comme ça que je le voyais, mais bon, des fois je suis aussi très doux et très gentil.
Ça, on le sent, parce que dans vos morceaux, il y a des passages qui sont aussi presque parapés, qui sont aussi chantés. Ouais. Et vous travaillez aussi beaucoup sur ce côté mélodique qui rend votre musique aussi accessible. Il y avait une envie de ne pas faire du rap très ciblé, de ne pas essayer de montrer les muscles forcément et de d'être peut-être un peu plus large que ça.
Déjà, il n'y avait pas de muscles, déjà. Donc au début, on est allé à la salle et tout, mais ça n'a pas marché, on a laissé tomber. Je ne crois pas qu'on l'a fait pour être différent, mais j'aime le chant, il aime le chant, on aime la musique en fait, on n'aime pas que le rap. Et c'est vrai qu'on vient du rap, donc on restera des rappeurs, un beatmaker, je resterai sûrement ça toute ma vie. Mais je chante et je fais des tas d'autres trucs et tout, on s'en fout un peu des limites du rap, quoi.
On a parlé un petit peu de textes violents, mais j'ai surtout remarqué un changement de ton dans Goodbye, l'un des morceaux tirés d'un de tes projets personnels, Bahati, sur lequel tu fais un featuring, Newski, et qui en fait est tiré de ton EP, donc Adventures, qui surprend, c'est plus léger, on s'imagine parfois un peu dans un jeu vidéo. Bahati, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ?
Ouais, alors c'est un morceau qu'on a fait déjà il y a quelques temps, mais c'est un truc qui... Et donc c'est une bonne passerelle entre ce qu'on a fait pour la mixtape Sous et ce qui va arriver là, l'automne-hiver, quoi. Ça va être... ça sera pas forcément plus léger, mais bon, après c'est vrai que Goodbye c'était un morceau assez comique. Enfin, il y a un côté, une dimension comique dedans, on l'a assumé, c'était marrant. Après on va refaire d'autres morceaux très sombres, d'autres morceaux très joyeux. Moi j'aime bien les... Enfin, je trouve que Noski, quand il écrit, il transmet ses émotions, quoi, donc ça peut être triste, joyeux, et... J'aime bien qu'il y ait plein de contrastes, ça crée des différences entre les thèmes. Donc ça, c'était un morceau un peu léger et joyeux, c'est vrai. Sinon, il n'y a pas de... Ouais.
Et musicalement, c'est vrai que c'est...
Pardon. Et la référence aux jeux vidéo, c'est moi, ou il y a vraiment quelque chose que... Alors, duquel tu t'inspires, hein.
J'ai pas pensé à ça en faisant la prod. Après, je crois qu'il y a une petite dimension mignonne dans les mélodies qu'on choisit, et ça fait peut-être un peu jeux vidéo des fois. Puis même le beat là, il fait jeu vidéo, mais j'ai pas pensé à ça en faisant.
Parce que
pas...
même Adventures, j'avais l'impression de voir un peu l'épée de Zelda là.
Oui, par contre, visuellement, graphiquement, j'aime beaucoup l'esthétique des jeux vidéo, les pochettes des Zelda et tout ça, je suis fan, j'adore.
D'accord. Justement, bah moi, je vous appelle par vos blazes depuis tout à l'heure, mais Vaati, c'est tiré de Zelda d'ailleurs, il me semble. Est-ce que vous voulez présenter un peu vos noms de scène, nous dire un peu d'où ça vient, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous appeler Nouski et Vaati finalement, plutôt que... D'ailleurs, vous pouvez nous donner vos prénoms. Parce que...
Pourquoi vous n'avez pas fait un groupe avec un acronyme à trois lettres comme tout le monde fait en ce moment?
Ouais. Pourquoi on n'a pas fait ça, putain?
Je sais plus, j'ai oublié.
Non, mais... Un nom bien long qu'on résume juste par quelques lettres.
Bah, comme tu l'as dit, moi c'était juste un truc qui venait de Zelda, un moment où je cherchais un blaze, et de toute façon à partir du moment où tu trouves ton blaze, après que t'aimes ou t'aimes pas, il est là et tu peux plus trop en changer, quoi. Donc, mais c'est cool, il t'apparaît un peu tout seul, quoi. Donc voilà.
Moi ouais, c'était mon blaze, c'était mes potes ils m'appelaient Skin parce que je suis fin, parce que je skinny, quoi. Comme du shit mal servi. Et puis j'ai fait le verlan et ça a fait Nuski. J'ai mis un U pour ça.
D'accord, c'était ton surnom quand tu taguais.
Ouais.
C'est ça. Ouais, je suis allée piocher dans les interviews. Oui, oui, oui. Si tu veux pas me le dire, moi je vais te le faire dire.
Bah écoute, ouais.
Tu étais hors la loi à une époque.
Ouais, mais c'est pas vraiment. C'est pas un truc de bandit, hein. C'est. Mais bon, ouais, ça m'est arrivé. Avec mes potes.
Vous venez tous les deux de deux crews différents, de deux univers assez différents. Qu'est-ce que vos potes respectifs ont pensé de l'album qui est sorti? Est-ce que vous avez eu des retours un peu déjà?
Ils vont pas dire que c'est de la merde, hein. Si c'est tes potes.
Bah, y a un truc comme ça, c'est vrai que les avis de la famille et des amis sont rarement hyper objectifs, mais bah, du coup on pourra jamais savoir en fait. Au fond de leur
pensée. Mais si vous êtes là, c'est que quelque part ça doit pas être si mauvais que ça.
Non, mais en tout cas, oui, on a eu des retours positifs après. C'était il y a quelques temps déjà, du coup, j'ai oublié même un peu le...
Ouais, je me souviens, ouais. Mes potes, ils ont trop kiffé, même tes potes.
Oui, bien sûr, ils ont tous
nos
trop kiffé.
Nos potes, nos familles, ils ont tous adhéré, mais comme il dit, c'est dur de savoir quand est-ce qu'ils aiment vraiment, de quand est-ce qu'ils aiment pas.
Vous étiez inouï du Printemps de Bourges cette année. Yeah. Comment s'est passée cette grande première?
C'était super cool, hein. Il y avait un petit peu de pression, c'est normal, mais ça s'est pas passé. Et... C'était cool, on a eu un bug dès le deuxième morceau, c'était assez marrant.
Ouais. Et comment vous vivez du coup plus largement le fait qu'on vous considère un peu comme les nouveaux ovnis du rap français?
On a vu ce titre sur internet, je sais plus qui c'est qui a écrit cet article.
C'est Culture Box.
Culture Box.
Moi j'y pense pas, après quand on me le dit je le vis pas super bien, mais... Bah non mais c'est vrai,
Pourquoi trop... ça te met la pression?
Bah non mais c'est un peu gros et...
Ça sonne un peu combiniste. Je...
Ouais. Ça fait un peu TTC,
Non mais ça fait
Spinkles, tout dans le même sac.
Parce qu'après du coup, l'effet qu'il peut y avoir, qui peut se produire après ça, c'est que... On pense que les gens pensent qu'on veut être différent pour être différent. Ouais. C'est pas, on pense vraiment pas du tout comme ça, quoi. C'est, ouais. Même je crois que nous deux, on aime pas trop les artistes qui font des trucs bizarres pour faire des trucs bizarres. On est presque contre ça. Mais ouais, c'est un peu gros comme titre.
Les ovnis, écoute, peut-être. Des martiens, des extraterrestres. Non, des. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Des oiseaux. Alors, des oiseaux, ce serait mieux des oiseaux. Ils volent, les oiseaux.
Ouais, je suis chaud.
Oiseaux du rap français, voilà. Vous avez
les oiseaux du rap français qui sont donc à Rock'n'Scène. Comment vous en êtes arrivé là? Comment vous avez rencontré, je sais pas, des organisateurs? Est-ce qu'on est venu vous contacter?
Ouais, c'est l'EMB qui nous suit, une salle dans le 95, et qui nous a beaucoup aidé depuis le début, et qui nous ont fait qui nous ont fait jouer ici.
Ok, bon bah c'est super.
Grosse
grosse dédicace à eux. Si jamais on a envie de vous écouter et qu'on a la chance d'être à Rock'n'Scène aujourd'hui, à quelle heure vous passez?
20h.
20h donc sur la scène Île-de-France. Et yes. Avant de conclure, est-ce que vous avez une petite exclusivité à nous balancer? Vous parliez de projet à Noël.
Bah, on sort un EP cet automne.
Vous sortez un EP cet automne.
Ça arrive, les clips arrivent, les visuels, les femmes en feu, les femmes en chaleur.
Il faudra venir sur Radio Campus pour nous présenter
yes,
tout ça.
Absolument.
Radio Campus.
Yes.
Ok, bon bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Et à bon vous. Festival, bon courage pour tout à l'heure.
Merci,
on
merci.
Vous écoutera.
Bah volontiers.
Merci.
À la prochaine.
Radio Campus Paris à Rock'n'Scène avec le RIF. De vendredi à dimanche. À 19h.
Matin et soir, soir et matin, change de wagon, je change de train, sans entrain, pour assurer mon train, train quotidien. Matin et soir, soir et matin, je change de wagon, je change de train. Y'a de tout dans ce train, des gens qui dorment, des chiens qui pissent, des femmes enceintes, des enfants bruyants. Le matin c'est bondé, le soir c'est blindé, ça pue, ça chante, ça se lamente, tout ça se vend d'avoir une petite vie, oui monsieur, d'avoir une vie monsieur. Parfois les femmes se maquillent, se parfument parce qu'elles sont moches et qu'elles puent parfois des mecs enivrés, défoncés en mer les passagers. Mais c'est jamais bien méchant dans le TER centre. Le trajet je le connais par cœur, de la campagne à Paname, dans les banlieues les trams s'ébranlent dans le froid sous un soleil de plomb. À travers les nuages et la pluie dans le brouillard hivernal on est serré. Tu suffoques des minutes entières et quand le train s'arrête et que les portes glissent, les rails se mettent à grincer, à gémir de douleur, elles crissent, elles frémissent. Les banquettes sont chauffées par des culs différents, les regards se croisent indifférents, les paupières se ferment fatiguées, éreintées d'une journée épuisante. Les chances s'effilent en building, les grands arbres s'enterrent et se changent en parking. C'est tout un monde que tu traverses quand tu prends tes versants. Soir, soir et matin, change de wagon, change de train, sans entrain, pour assurer mon train, train quotidien. matin et soir, soir et matin. Change de wagon, change de train. Y'a de tout dans ce train. Des gens qui pensent, des gens qui pensent aux gens, des gens qui pensent aux gens qui pensent. Là sont un peu barrés quand on y pense. On voit des mecs qui décuvent d'une soirée au calme, on croise des jolies minettes tombées au bord des larmes. Y'a de tout, y'a une âme, un truc qu'on n'explique pas dans le TER centre. Dans le TER centre, y'a pas d'étiquette. On détruit les notions inculquées trop jeunes dans les têtes. C'est hétérogène, on se prend pas la tête. On n'a pas les mêmes gènes dans le TER centre. Les gens qui voyagent ne se parlent pas beaucoup, mais je crois bien qu'ils s'aiment quand même. En même temps, tu te sens proche de l'autre quand tu partages un retard d'une heure 57.
Vous vous étiez laissé partir en écoutant TER Centre, mais il va falloir vite revenir car on reçoit justement son auteur, Tim Dup. Bonjour. Alors, tu as 21 ans, tu es chanteur, pianiste et compositeur. Ton premier EP, Vers les ours polaires, est sorti hier. Tout à l'heure, tu seras sur la scène Rock en scène. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Est-ce que tu as toujours voulu travailler dans la musique ou est-ce que c'est arrivé progressivement?
J'ai pas toujours eu l'ambition de travailler dans la musique, j'ai toujours eu envie de faire de la musique, ça c'est sûr. J'ai commencé assez petit, en écoutant déjà, et puis en jouant du piano, en chantant. Et ce qui arrive maintenant, c'est un peu surréaliste, mais c'est du plus, quoi.
Ça arrivait très vite, parce que ton premier single dont on parlait tout à l'heure, il est sorti en avril, donc c'est... T'as eu du rythme, quoi, comme on dit. T'as été dynamique. Hein.
Ça a été bien, bien rythmé, ouais. Et c'est chouette parce que j'ai pu faire des concerts aussi depuis avril, ce qui permet de travailler d'une manière différente. C'est pas la même chose que le studio. Et le studio, en revanche, a amené cette EP qui est sortie hier, comme tu disais. Et c'est super cool.
Et t'as été aidé un petit peu dans cette démarche, je crois, par l'un des d'autres participants à notre plateau, Arnaud Monnier. Vous êtes aussi le manager de Team Dup et vous co-dirigez également l'EMB, c'est bien
oui,
ça?
C'est ça.
Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette structure, hein?
L'EMB?
Bah oui.
L'EMB, c'est une salle de concert qui se situe dans le Val d'Oise, à Sannois. C'est une salle de 500 places qui est ouverte depuis 22 ans. Et qui programme plein de styles d'artistes différents. Les trois grandes activités de l'EMB, c'est la programmation de concerts, l'accompagnement de carrière de jeunes artistes et le développement d'actions culturelles.
D'accord. Et comment ça s'est fait la rencontre avec Team Dup?
On m'avait proposé de faire partie d'un jury sur une opération qui s'appelle Talent Acoustique TV5 Monde. Et j'avais 120 groupes à écouter. Et parmi les 120, eh bien, j'ai écouté une chanson de Timothée et j'ai été touché par cette chanson et j'ai voté pour lui. Personne n'a voté pour lui, il n'y a que moi qui ai voté pour lui.
Personne.
Et puis du coup, il est passé à la trappe, mais néanmoins...
La preuve qu'il se trompait.
Voilà, et je l'ai rappelé 2-3 jours après, on s'est rencontrés, et c'était il y a 3 ans.
D'accord.
Du coup, c'est précieux d'avoir quelqu'un comme ça à tes côtés pour t'aiguiller un petit peu parce que t'as, on te dit, t'as 21 ans, ton premier EP il est sorti. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées très vite. Ce regard extérieur, il est important ou au contraire, t'aimes bien être un peu dans ton coin plus tranquille pour bosser?
Il est hyper important. Moi, en tant qu'artiste, j'ai quand même à cœur de saisir tout ce qui m'entoure et d'être au cœur de chaque discussion, chaque décision. Mais je pense que c'est hyper nécessaire pour un artiste d'avoir du soutien derrière, déjà parce que il faut lancer un projet, donc il faut des mains que celles de l'artiste sont pas suffisantes, et en même temps il faut aussi un espèce de filtre. Je pense que c'est aussi important pour un artiste de rester concentré sur la chose principale, écrire, composer, travailler sur l'artistique.
Et justement, t'es le seul artiste solo auteur-compositeur qu'on a cet après-midi. Comment tu travailles? Tu pars du texte, de la musique?
Un peu des deux.
Ouais.
L'avantage avec l'écriture, c'est moi j'écris de manière très spontanée quand j'ai une intuition. J'aime bien poser les mots très rapidement. Je prends une note sur mon portable ou j'écris les mots sur un papier. Mais et ça, l'avantage, c'est qu'on peut le faire partout. Composer, non. Quand t'es inspiré, bon, t'as pas toujours un piano à côté de toi si t'es sur une plage. Donc, mais c'est intéressant de voir. En tout cas, j'essaye que la musique et les paroles soient à peu près au même niveau.
Et justement, la légende raconte que tu as écrit ton premier morceau TER Centre d'une seule traite sur un trajet Paris-Rambouillet. Ça donne un côté un peu déstructuré mais très spontané. Est-ce que c'est ça la sensation que tu essayes de produire pour le mec qui t'écoute, celle d'être posé au bord d'un fleuve où coulent tes pensées et tes textes hein?
C'est très joliment dit. Ouais, c'est ça. J'essaye de transmettre des choses brutes mais sincères et écrire spontanément. Je pense que c'est la meilleure façon de s'adresser très directement à quelqu'un.
Je crois qu'à côté de la musique, tu es étudiant en communication et médias. C'est ça ou c'est ça à la Sorbonne?
Tout à fait.
Et outre un diplôme, qu'est-ce que ça t'apporte?
Ça m'apporte quelque chose de très cohérent avec la musique. Et ça, je suis hyper content parce que j'ai enfin trouvé une perspective professionnelle qui n'est pas éloignée de la musique. La communication, la musique, c'est de la communication déjà. Et les deux se mûrissent vraiment, l'une et l'autre. Elle s'apporte beaucoup, ouais.
Ça te sert dans ton développement, quoi, dans ton inspiration aussi?
Ouais, ça me sert dans ma manière de comprendre l'industrie musicale, de comprendre les enjeux communicationnels que nécessite le développement de carrière d'un artiste. Et en même temps, ça me permet aussi d'être concentré sur des choses très normales que font tous les étudiants à mon âge, avoir des études, et puis la musique, c'est une passion.
Et tu vas réussir à gérer là, parce que ça prend un peu plus d'ampleur. Du coup, cette année, là, en septembre, reprendre les cours et après avoir fait Rock en scène,
ça va être tendu, mais je vais le faire. Et moi qui suis très peu organisé, c'est très cool parce que ça m'oblige à être un minimum cadré dans ce que je fais. Et c'est bien, ouais. Je suis très content.
Aujourd'hui, on te retrouve dans une configuration seul, toi, piano, guitare, voix. Est-ce que tu as déjà fait de la musique dans d'autres configurations avant en groupe? Est-ce que tu as un background un peu où tu travailles à plusieurs et où du coup tu as préféré travailler tout seul? Ou dès le départ, tu as souhaité te lancer tout seul parce que tu te sentais plus à l'aise comme ça?
Non, comme tu dis, j'avais des groupes de potes collège, lycée et en fac aussi. Je jouais avec des amis. Ça m'a appris une chose en tout cas, c'est qu'il faut écouter, il faut écouter globalement l'autre et que chaque chose soit à sa place. Quand on est en groupe, surtout au collège, avec les égos, on a tendance à tous vouloir faire des solos et on n'entend plus rien, quoi. Après, en même temps, mes textes, ils sont assez intimes et assez personnels, donc c'est venu aussi un peu naturellement ensuite de faire ça tout seul.
Et là, aujourd'hui, tu te dirais que tu pourrais... Une fois que tu auras posé tout ce que tu as envie de poser avec tes morceaux, est-ce que tu te dis que tu pourrais retravailler avec d'autres musiciens, peut-être d'autres personnes pour t'accompagner, ou tu te sens assez à l'aise pour continuer à développer comme ça?
Non, j'aimerais en tout cas essayer, et parce que ça manque aussi, c'est chouette d'être sur une scène à plusieurs. Les émotions sont pas les mêmes, on partage un truc qui est différent. Et l'avantage, c'est que cette EP, y a aussi des teintes électro, hip-hop, donc c'est qu'on pourra toujours mettre ça en musique à plusieurs.
Oui, justement, t'as sorti donc ton premier EP hier, c'est ça?
Tout à fait.
Et t'as travaillé avec Pavan, un artiste électronique. Et justement, ton premier EP, c'est le moment un peu important où tu figes, tu te définis un peu pour la première fois vraiment. Quel son tu cherchais exactement? Qu'est-ce que tu cherchais et pourquoi t'es allé chercher Pavan pour apporter des choses que toi, t'avais peut-être pas...
Je cherchais quelque chose qui me ressemble. Et je pense que Pavan a pu me l'apporter. À la fois, moi, la basse, c'est un piano, une voix et des textes. Et Pavan a apporté ce côté jeune et frais qu'est l'électro. Et on a aussi amené avec des samples un peu trip-hop. Et l'idée, c'est de faire un melting pot de toutes mes influences et de ses influences à lui aussi. Et de faire quelque chose à la fois qui respecte la chanson et en même temps qui la différencie.
Et justement, c'est quoi tes influences? Je dirais dans la chanson française, vu que quand même tu as la particularité d'écrire en français. Donc de qui seraient les grands artistes
français, les pères de la chanson française, il y a Brassens, Moustaki, Brel, Léo Ferré, beaucoup en fait, beaucoup. Mais tout cela m'ont apporté une chose, c'est que la langue française est hyper belle et que la faire sonner, c'est pas forcément évident. Et j'aime bien ce challenge-là.
Et tu dois rester justement sur du français, ou est-ce que tu aurais envie de t'essayer un petit peu à l'anglais pour avoir peut-être une dimension plus internationale? Ou alors est-ce que ça peut être justement une, dirais, une raison de faire rayonner la langue française par-delà nos frontières,
hein. Je ne sais pas si j'ai cette ambition-là, mais avant d'ailleurs, je chantais en anglais, puis ensuite 50-50, et puis j'ai fait le choix de partir sur du français parce que je trouvais ça plus cohérent. Je suis français, j'aime écrire en français, mais je me pose absolument pas de barrière si... Dans 10 ans, j'ai envie de faire un album en anglais parce que ça me parle et que ça m'émeut, pourquoi pas, ouais.
Puisqu'on parle du fait que tu chantes en français, tu le dis régulièrement depuis le début de l'interview, que ce que tu écris, ce que tu racontes dans tes chansons, c'est aussi beaucoup de vécu personnel. Le chanter en français, ce vécu personnel, c'est une démarche qui est assez forte, c'est-à-dire que tu balances au monde tout ce que tu vas ressentir, et on a le RER Centre... TER Centre a fait 50 000 vues à peu près, donc t'as 50 000 personnes qui ont écouté ton ressenti personnel. C'est une démarche qui est difficile à faire, ou au contraire, c'est un peu, ça fait du bien.
Ça fait du bien. C'est, je pense que franchir le cap est pas forcément facile, mais après, en fait, c'est très naturel. Je trouve que, voilà, je chante en français, je suis français, et ça me parle, et si ça parle aux gens, c'est encore plus cool.
La femme était anti-taxi, toi tu écris sur ton expérience dans le TER, c'est vraiment une source d'inspiration les transports ?
En tout cas celle-là elle l'a été, ouais. Je l'ai pris pendant 5 ans entre les allers-retours, campagne, Paris avec ma fac. Et il y a des choses, en fait on oublie souvent ce qu'on vit dans le quotidien parce qu'on est dans cette espèce de rengaine qui n'est pas très belle, qui est sur le papier. Et en fait il y a plein de choses, il y a des regards, des visages, il se passe des choses qui sont... pleine d'espoir, et au bout de 4 ans, que de 4 ans, je me suis dit il faut écrire un truc, quoi.
Du coup quand t'es dans le train, tu regardes les gens et tu t'imagines qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur journée, c'est tout ce qu'on voit un petit peu dans le morceau. Lui il est là, il est saoulé, il a passé une mauvaise journée, elle est contente, elle est avec ses enfants, tout ça. Tu fais tout ça dans ta tête?
Ouais, c'est un peu schizophrène, mais c'est aussi, enfin, je trouve ça amusant de s'imaginer d'où vient cette personne, comment elle s'est levée, dans quelle maison elle s'est levée, et finalement on est un peu tous les mêmes, on prend le train, et c'est ça le fin mot de l'histoire.
Outre le travail musical, je crois que tu travailles aussi sur le visuel de ton projet musical, et notamment le clip. Est-ce que tu peux nous parler de Vers les ours polaires? Parce que je crois que c'est une histoire, vous êtes allé tourner ça en Islande.
Tout à fait. Il y a quelques mois, on m'a fait rencontrer un jeune mec vidéaste, Hugo Pillard, et en fait on est devenus assez copains, même amis, et moi j'avais découvert l'Islande il y a 5 ans, et d'ailleurs c'est peut-être ce voyage qui a inspiré aussi Vers les ours polaires, et j'ai trouvé complètement naturel de retourner là-bas pour le filmer, en plus avec des amis. J'ai un autre copain qui est venu, on était 4 acolytes, et comme ce morceau parle d'évasion et en même temps d'humain, ça collait, quoi.
Ouais, les images sont superbes, et ça m'arrive vachement bien avec le musique, quoi. C'est vraiment chouette, hein.
On sent chez toi que le piano, il est pas juste là en accompagnement de la voix, c'est-à-dire que t'as un vrai goût des mélodies, du travail au-delà des simples plaquer des accords, etc. Tu vas chercher des choses qui sont presque jazzy des fois. La pratique du piano, c'est quelque chose qui est ancien chez toi, il y a très longtemps que tu pratiques le piano ?
J'ai commencé à l'âge de 7 ans.
Ça fait un petit bout de temps.
Je l'ai mûri, puis j'ai arrêté les cours parce que j'avais plus vraiment le temps. Et en fait, son instrument, on a une relation un peu particulière avec, et on le découvre. Même là, depuis que je fais des concerts, je le redécouvre. Je redécouvre mes chansons sur scène. Je redécouvre l'instrument qu'est le piano. Et il y a beaucoup de possibilités. Et c'est un instrument, je trouve, qui est assez hybride, qui peut se marier aussi bien avec de l'électronique, du hip-hop, du rap, et en même temps, ce côté jazz classique.
Justement, tu as choisi dans pas mal de tes morceaux de l'accompagner par une rythmique qui va être un peu hip-hop de temps en temps. Ça amène un côté assez urbain au morceau. C'est quelque chose que tu voulais travailler aussi, amener quelque chose de peut-être plus dur qui contrebalance la douceur du texte et de la mélodie.
En tout cas, j'aime bien cette idée du paradoxe d'avoir quelque chose d'assez enlevé, tu vois, qui emporte un peu, et en même temps des phrases peut-être plus douces et qui appelle pas forcément à la violence.
Alors moi, j'ai jeté un petit coup d'œil à ta revue de presse, et j'ai remarqué qu'il y avait une expression qui revenait assez souvent. Si je te compare à Fauve, est-ce que tu me fous une baffe ?
Non, du tout. C'est tout à fait normal d'être comparé à d'autres groupes. C'est un peu le délire quand on commence. c'est qu'on est forcément influencé par beaucoup de choses. Après, l'idée, c'est pourquoi pas, quand viendra l'album et que d'autres feront de la musique, on dira, tiens, tu fais du team-up.
Et donc, ce soir, on peut écouter du team-up. Ça se passe sur la scène Île-de-France, donc de Rock en scène. Tu passes à quelle heure ?
18h.
Donc, c'est bientôt. Tu te sens prêt ?
Ouais. Ouais, il fait chaud, mais c'est cool.
Bon, bah alors, on va t'écouter. Merci à tous d'avoir écouté donc cette émission. Elle touche à sa fin. Merci encore aux artistes qui sont venus aujourd'hui sur notre plateau, ainsi qu'au Riff qui a permis de rendre tout ça possible. Et merci aussi à vous, Erwan et Simon, d'avoir été là pour m'accompagner.
Merci à toi. Un grand merci à toi, Béatrix.
Évidemment, merci à tous les auditeurs de Radio Campus Paris d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain pour le dernier jour du festival Rock en scène. En attendant, avec cette chaleur, pensez à boire de l'eau à côté de votre bière, je vous connais. Bonne soirée à tous et merci d'écouter 93.9.
Ciao.